Notre invité du jour, j'espère que vous allez voir la version vidéo, et si vous regardez et si vous écoutez la version audio, ben n'hésitez pas ensuite à aller sur nos réseaux sociaux pour voir la version vidéo. Philippe Risoli est avec nous pour son nouveau livre « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Bonjour.
Bonjour Fred, ça va bien ?
Ah ben moi ça me fait plaisir de vous... On se tutoie ?
Bien sûr.
Allez, on se tutoie. Ça me fait plaisir de t'avoir. J'aurais presque envie de dire bonjour Jean-Patrick. J'ai appris il n'y a pas longtemps que ça m'a fait rire, que ça a été ton premier prénom à la radio.
Oui, parce que ma première radio au début des années 80, on est dans le sud de la France, et il y a déjà un Philippe à l'antenne. On me demande de changer de prénom, je ne suis absolument pas... quoi prendre, je me dis bon, je vais ruser, puis je vais m'appeler Philippe, et puis tout ça comme mon prénom. Uh-huh. Et puis non, ça passe pas, ils veulent que je change de prénom, la direction. Et comme il y avait Jean-Patrick Capdevielle, tu te souviens, Jean-Patrick?
Ah ouais, quand t'es dans le désert.
Quand t'es dans le désert, depuis si longtemps.
Et du coup,
demandes à quoi ça sert. Bon. Et l'animateur m'a dit, bah tiens, on n'a qu'à dire Jean-Patrick. Alors c'est devenu Jean-Patrick, et pendant les deux années où j'ai travaillé sur cette antenne, eh bien je me suis fait appeler Jean-Patrick, mais j'ai repris mon vrai prénom immédiatement après.
Philippe Risoli, au départ, tu as toujours voulu faire ça, ce...
Radio-télé, c'est ma vie, c'est ma passion.
Pourtant, tu as fait plein d'études, tu aurais dû être avocat, enfin, tu as plein de choses, et en fait, ça a été ta passion, et ta passion étant un peu dévorante, c'est ce qui t'a fait kiffer, en fait.
Ah oui, complètement. Depuis quand j'étais petit, ma mère me racontait que je montais sur un balai, je me mettais un panier à salade sur la tête et je criais artiste. Tu vois, je peux pas dire mieux.
Ouais,
à 3-4 ans maximum. En cours, je chantais à tue-tête. J'ai toujours été un leader avec mes petits camarades. J'ai souvent été élu chef de classe, tu sais, dans les classes pour les... pour les représenter, etc. Donc voilà, la communication, c'est vraiment mon truc. Effectivement, j'ai fait des études longues puisque je suis allé jusqu'en doctorat en droit, propriété littéraire, artistique et industrielle. Toi, c'était quand même le droit d'auteur, donc on n'était pas très loin de mon milieu. Et puis un jour, j'ai tiré à pile ou face, que j'ai une des anecdotes que je raconte dans mon livre, le jour de l'examen du CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, c'est tombé sur la face « recouche-toi ». Je sais pas si t'as vu, sur les pièces, il y a toujours deux faces. Il y a « vas-y » et « recouche-toi ». Et moi, c'était « recouche-toi ». Et donc, je l'ai pas passé. Puis après, je suis maquette, j'ai réussi à me faire engager sur une première radio, et puis une seconde, une troisième, etc. jusqu'à la télévision. Mais c'est pas tout à fait l'objet de mon livre.
Non, c'est pas du tout. Parce que si, est-ce qu'il faut citer une émission ? C'est ce qui est bien avec toi, c'est qu'on dit Philippe Risoli, c'est comme la Tour Eiffel, en fait. On te connaît, on sait.
C'est gentil.
Mais non, mais c'est vrai, succès fou.
Je sais pas si je durerai aussi longtemps.
Oh, si, j'espère en tout cas. Le millionnaire et tout ça, mais le livre n'a rien à voir avec tout ça. C'est ta vie, c'est la vie. Et surtout de tes parents.
Oui.
Tu avais fait une promesse en fait aux parents.
C'est mes parents et la mienne à travers la leur. C'est-à-dire c'est un réveillon de Noël en fait. Réveillon de Noël de mes 12 ans. Ça pourrait presque être un roman. C'est un gamin qui attend ses cadeaux de Noël. Il attend ses cadeaux de Noël qu'il va trouver au pied du sapin le lendemain. Et à travers ses cadeaux, à travers l'ambiance de ces années, puisqu'on est au milieu des années 60 exactement, c'est en plein dans les 30 glorieuses, comme on disait à l'époque. Ce sont des années relativement festives. À travers ses oncles, ses tantes, sa grand-mère, son père, sa mère, qui sont autour de la table pour ce réveillon de Noël, à travers ce qu'ils ont mangé ce soir-là, tous ces gens, eh bien, on va se balader un petit peu partout dans ces années-là, dans cet univers. On peut très bien passer de l'assassinat de Kennedy au 45 tours des Beatles, Yesterday, puis revenir en 2018, repartir dans le temps, avec toujours ce réveillon de Noël en point commun à ce récit, qui traite évidemment aussi de mes parents que j'ai perdu maintenant, dont mon père qui a donné le titre sans le savoir à ce livre. Il savait que j'allais écrire un livre, mon père, mais dites bien à mon fils que je l'aime, ce sont les derniers mots qu'il a dit à l'infirmière. Ça se passait pas très loin d'ici, c'était au CHU d'Amiens, tu vois.
D'accord.
Oui, puisque mon père vivait dans la région.
D'accord.
Enfin, mon père et ma mère, ma mère était partie en 2004. Donc ça s'est passé au CHU d'Amiens. Il n'a pas voulu que je reste, il m'a dit va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir, qui est une phrase quand même dur.
C'est dur, hein, quand même, ouais.
C'est très dur.
Est-ce qu'encore maintenant, tu y penses, encore maintenant?
Ah bah
tu
oui, ces deux phrases-là.
T'aurais voulu refaire l'histoire ou alors
Non, il faut jamais essayer de refaire l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Mon père m'adorait, je le sais, même si, étant enfant, il a été très très dur avec moi. Vraiment, très sévère.
Ouais, mais italien, donc...
Oui, c'est possible. Il avait eu lui-même une enfance difficile, à Paris, sous l'occupation, la guerre, etc. Donc il y a aussi des passages de cette Seconde Guerre mondiale que je retrace à travers les propos de mon père dans ce livre. Je parle de la fin de vie également, éventuellement l'euthanasie, dont on, bah ça c'est à propos de la disparition de ma mère un petit peu plus tôt.
Mais... Oui, parce que pour la petite histoire, on est le 30 octobre 2004, 18h, et ta maman te, sur une ardoise, écrit La Mama d'Aznavour, cette chanson.
Oui.
Là, tu comprends en fait ce qui va se passer. Voilà, ouais. Tu comprends ce qui va se passer. Et en 2004, on parle pas de ça. Elle a souffert énormément. Elle avait un problème de santé depuis des années en plus.
Oui, oui, elle avait un problème d'emphysème aggravé par de l'asthme, et en plus, elle fumait. Hein, tu vois, ça fait beaucoup.
Ah oui,
et
oui.
Pour terminer tout ça, dans un autre CHU, pas celui d'Amiens, hein, elle avait chopé ce qu'on appelle un staphylocoque doré dans les poumons. Et ça c'est dramatique. Donc elle avait un masque à oxygène sur le visage. C'était terrible de la voir comme ça. C'est cette femme tellement belle, tellement brillante. Ma mère était une intellectuelle. Mon père était plus un manuel. C'est drôle d'ailleurs cette association des deux, mais ils s'entendaient parfaitement bien. Je porte un des rares points de discorde entre les deux, c'était peut-être moi.
C'est
parce que ma mère trouvait que mon père était trop sévère, mon père trouvait que ma mère était trop...
En même temps, il y avait un rapport fusionnel avec ta mère.
Ah bah c'était un rapport fusionnel, on se regardait, on se comprenait. C'est elle qui me faisait répéter mes récitations. J'adorais moi les récitations quand j'étais gamin, mais plus tard elle me fera répéter mes oraux de droit quand je passerai mes examens. Voilà, on s'adorait véritablement. On se dit j'aimais tout autant mon père, hein. Mais je vous dis, c'était un peu plus compliqué les rapports, et mon père était quelqu'un de secret qui ne parlait pas. Mais pour revenir à maman, oui, je suis au CHU d'Amiens, 30 octobre, l'infirmière nous dit sortez 2-3 minutes, le temps de faire une toilette. Je vois ma mère regarder l'infirmière, lui faire ce que j'ai moi interprété comme un petit clignement des yeux, lui serrer la main, etc. On sort, 3 minutes après, il y a une sirène qui retentit. Moi, j'imagine pas du tout qu'il s'agit de ma mère. Mmh. Et en fait, l'infirmière arrive et nous dit à mon père et à moi, votre maman vient de partir. Ah, ça a été, j'étais complètement... parce que je ne l'ai pas vue. Autant mon père, je l'ai accompagné, ma mère, je ne l'ai pas accompagné, parce que 2004, c'est une période pour moi professionnellement un petit peu trouble. Je viens de quitter TF1, je n'ai pas encore retrouvé la stabilité, je ne sais pas trop bien où je vais. Il n'y a pas encore la TNT, il n'y a que 6 chaînes. Donc je suis, c'est vrai, préoccupé un petit peu par mon avenir professionnel. Ma mère étant éloignée, puisqu'ils sont dans le Nord, moi j'habite à Paris. Pipi de l'asthme. On vous annonce, vous avez un cancer, ça fait peur. Quelle que soit d'ailleurs la forme du cancer, même si heureusement il y en a plein qui se guérissent maintenant, hein, il faut dire ça à tous ceux qui nous écoutent, faut garder espoir, faut se battre. Mais l'emphysème, je dis pas que ça fait rigoler, hein, mais on se dit bon, l'emphysème, on va tout sauter, on va avoir un petit peu de mal à respirer, eh bien on peut en mourir. La preuve, ma maman, c'est de ça qu'elle est partie. Donc j'ai vraiment après un peu culpabilisé, j'ai eu du mal un peu à me remettre depuis. Encore une fois, on était tellement proches qu'elle me manquait. Moi, je l'appelais tous les jours, ma mère. Donc, pendant des mois, voire des années, j'avais toujours le réflexe, dès qu'il m'arrivait quelque chose, par exemple, quand je vais te quitter tout à l'heure, à regret, mon cher Fred, eh bien, tu peux être sûr, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais dit, ah, maman, tu sais, bah tiens, je suis pas loin de chez vous, là, j'étais sur Mona FM avec un type sympa, Fred, on a parlé, bah tiens, on a parlé de toi, tu vois.
Ouais.
Bah, peut-être qu'elle nous écoute, là, j'espère.
Je pense qu'elle écoute, je pense. Ouais. À quoi ça peut aussi servir ce livre? À toi déjà, ça fait du bien toujours d'écrire.
Sorte de thérapie, tu veux dire?
Non, mais pour les autres, pas forcément pour toi.
Je l'ai pas fait dans le... Non, mais
quand les gens vont le lire, ça peut leur servir
d'abord,
à des choses.
D'abord, ça leur donne de l'espoir à plein de niveaux. Au niveau, alors même si mes parents évidemment ont disparu et que mon père avait sûrement un des cancers les plus durs, qui était le cancer de la plèvre dû à l'amiante. Donc ça, c'est un des plus graves. Mais c'est vraiment donner de l'espoir à tous ceux qui nous écoutent et qui sont un petit peu souffrants en ce moment. C'est donner aussi de l'espoir à tous les jeunes qui ont une ambition, pas forcément la radio, la télévision, mais comme moi, à l'âge de 12 ans, pendant ce réveillon de Noël, pour moi, c'était la radio, la télé, c'était ça, il y avait que ça qui comptait pour moi. J'arrivais à regarder la télé quand il n'y avait pas de programme, je l'allumais, je voyais ce qu'on appelait la neige, tu sais,
ouais.
Puis après on envoyait, alors en termes, en jargon professionnel, on appelle ça le 1000, c'est-à-dire le bip, c'est que comme ça.
Le petit bruit qui des fois ça rentre dans les oreilles et
voilà,
ça fait très mal.
Voilà, c'est ouais. Moi, j'arrivais à regarder ça. Donc, dire à tous ceux qui nous écoutent, quand on est passionné, il faut croire, il faut y aller. Alors, attention, je mets quand même une petite barrière, parce que parfois on peut avoir une passion professionnelle, mais ne pas être fait pour cette passion. C'est-à-dire ne pas correspondre. Alors, il ne faut pas non plus s'entêter, s'acharner. On peut, il y a des métiers qui vont être parallèles, qui vont être, je cite toujours un de mes amis qui voulait être comédien, mais qui était honnêtement, était pas excellent comédien et qui n'aurait pas fait carrière, qui l'a compris, qui est devenu attaché de presse. C'est-à-dire, c'est un métier parallèle aussi.
Ouais, tout à fait,
Voilà, d'acteur, etc. Et là, il est toujours en activité. Il a fait une carrière formidable et il a une vraie renommée, quoi, maintenant. Donc, on peut aussi s'épanouir. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas écouter les mauvais conseils de « t'y arriveras pas ». Moi, dans ma famille, personne n'avait de rapport avec le milieu des médias, hein, que ce soit la radio, que ce soit la télé. Mais ma mère, je dis essentiellement, mon père, ce n'est pas qu'il doutait, mais il se disait, mon père voulait que je fasse des études. Il me disait, attends,
ils l'ont vécu,
tes arrières.
Ils l'ont vécu comment, tes parents, quand tu te retrouves à midi au juste prix? Là, on voit, c'est Reichmann, mais les scores d'audience que tu faisais à midi, la semaine, le week-end, ils le vivaient comment? Ils t'en parlaient parce que c'était prenant.
Oui, bien sûr. Alors ma mère.
On te voyait partout. Moi, je me souviens, j'avais un téléstar, j'avais un télépoche. On voyait ta tête partout. C'était fou.
Oui, c'est vrai. Et puis je cumulais à cette époque-là, au milieu des années 90, au minimum 3 émissions.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire que j'avais Millionnaire le samedi, le dimanche.
Succès fou aussi.
En hebdo. Ouais. J'avais Le Juste Prix. Alors un peu avant, c'est j'avais Millionaire, Géopardy, qui était un jeu que j'adorais.
Cool,
et Succès fou avec mes amis. Patrick Roy et Christian Morin.
Ouais.
Donc oui, j'étais un peu partout. Il y a eu SVP Comédie, il y a eu Capital d'un soir, il y a eu La Nouvelle Affiche, il y a eu Direct sur Canal+, il y a eu Star Quiz, le jeu Star Quiz que j'ai tellement aimé, qui a été mon premier jeu. C'est là-dessus d'ailleurs que mon livre Dites bien à mon fils que je l'aime s'arrête sur la quand j'apprends que j'ai été choisi par la direction de Canal+ pour commencer sur cette chaîne qui est naissante et dont on vient de fêter l'anniversaire. Hein. C'était le 4 novembre dernier. Tu te rends compte que l'année prochaine, 1984-2024, ça va faire 40 ans que cette chaîne existe. C'est incroyable, c'est formidable. Et donc j'ai commencé là, moi. Alors ma mère s'exprimait peu à ce sujet. Mon père, lui, ça lui faisait plaisir de dire à ses amis, vous avez vu mon fils à tel endroit, vous avez vu. Là, quand ils sont, ça sera le point de départ de mon prochain livre, d'ailleurs, où là, je raconterai les années télé, si j'ose dire. C'est que je me suis rendu compte qu'il avait tout gardé. Tu parlais des coupures de presse, les télépoches, les téléstars, les télé 7 jours, les télés, tout ce qu'on veut. Il les avait absolument toutes les cassettes VHS, c'était les cassettes VHS à l'époque de mes émissions, il les a pratiquement toutes. Tu te rends compte que le Juste Prix était quotidien. J'ai trouvé des centaines et des centaines de cassettes au grenier qu'il ne regardait jamais parce qu'on ne peut pas.
C'est juste moment, pour le savoir qu'il les avait parce qu'il avait besoin de.
Voilà.
Donc en fait, en deux mots, je pense que c'est sûr, mais il était fier, même s'il ne te l'a pas dit, je pense qu'il était fier.
Sa fierté était
jusqu'au bout.
Moi, il ne me l'a jamais dit parce que ce qui était très curieux, c'était que lorsqu'on se retrouve tous les deux, il me parlait comme si j'avais 10 ans, quoi. Alors, il m'arrivait parfois d'aller à des soirées où j'étais reçu, j'avais un accueil VIP, enfin, etc., avec des gens de la haute société, on va dire. Et puis, alors, le week-end, j'allais le voir après le décès de ma mère, et on commençait à déjeuner tous les deux, et subitement, je pense qu'il lui prenait, bon, mais tu vas te tenir droit, on tient pas sa fourchette comme ça, enfin, Philippe.
Mais c'est ça qui est beau, c'est que dans ses yeux, tu étais encore un enfant, son enfant.
Complètement. C'est
ça qui est super beau. Il est très émouvant ce livre, je vous le conseille. On pourrait quasiment en faire un film ou un téléfilm. Parce qu'il y a vraiment une vraie histoire. Il y a même Mesrine qui apparaît là-dedans.
Oui, parce que j'étais témoin de la mort de Mesrine place de la Porte de Clignancourt à Paris dans le 18e. En lisant le livre, on comprendra comment. J'étais l'assistant de Sim aussi, ça personne ne...
Ça, je ne savais pas. J'ai découvert l'assistant de Sim et je ne savais même pas que en fait, tu as commencé très très tôt. Tu as toujours eu envie de faire ce métier. Tu en as voulu. Tu as tout connu. Tu as connu surtout les heures de gloire aussi de la télé, puisque maintenant, il y a 45 chaînes, enfin encore je suis gentil, 45, il y a Internet, il y a TikTok, il y a tout ça, il y a plein de choses. Tu parles pas de la ferme célébrité là-dedans, je pense que c'est pas forcément un bon souvenir.
Non, c'est pas ça, mais comme la ferme célébrité c'est 2005, mon livre il s'arrête en 86,
donc on n'en parle pas.
Donc je me rappelle, c'est pas le meilleur de mes souvenirs, hein. Je me suis souvent demandé ce que j'étais, enfin je sais pourquoi j'y suis allé, je le dirai exactement dans le livre. Après il faut aussi tirer les bons, la substantifique moi. voile, comme on dit, de à toute chose malheur est bon, dit-on. C'est peut-être aussi par
mais t'as
là.
T'as pas l'impression qu'à un moment, en fait, dans tous ces métiers où on passe à la télé, même les chanteurs et tout ça, il y a ce moment où tu célèbres, il y a ce moment de descente qui est limite naturel. Et puis à un moment, bah, il y a eu les moqueries. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que Philippe Rizzotti, c'est culte.
Oui, ce qu'on n'arrête
pas. Tu as vu quand tu arrivais, hein, quand t'es arrivé, les
ça
gens.
Ça me fait peur, hein, ça me fait peur parce que c'est, on n'arrête pas de me le répéter. C'était culte.
Mais, bah, en fait, oui, je me suis rendu compte d'une chose tout à l'heure. J'arrive dans le bureau et je dis tout le monde. Je venais de faire un autre artiste, machin, et j'ai dit, bon, il y a Philippe Rizzoli qui va arriver. Et là, j'ai eu des yeux de toute
oui,
personne.
Oui, j'ai
et
vu, d'ailleurs, je remercie toute ton équipe.
On a passé un cap, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on a parlé d'argent, il y a eu des moments, ça. C'est un moment de vie. Mais Philippe Rizzoli, aujourd'hui, fait partie de nos vies, en fait.
Oui, alors, non, je vais te dire, ce qui m'a toujours un petit peu chagriné, tu as raison, quand tu fais ce métier d'artiste, entre guillemets, t'as des hauts, t'as des bas. C'est comme un vol en avion, il y a des turbulences, hein. Alors, plus ou moins.
Enfin, il y a des hauts et des bas par rapport au déjà pas par rapport, je pense, aux gens, puisque théâtre a cartonné.
Ah, bah complètement.
Les pièces de théâtre,
et il va
cartonner, plein.
Parce que j'ai pas terminé.
Ouais, non, c'est toutes les pièces de théâtre que tu as faites, celles écrites par Jean-Pierre Pernaut, tout ça, ça a été des cartons.
Oui, oui, oui. Ah, bah, Piège à Matignon, régime présidentiel, avec Nathalie Marquet-Pernaut, Jean-Pierre, toute cette fine équipe. Après, j'ai écrit Tu rentres quand du Panama, c'était très, très drôle. Déjanté que j'ai joué avec Dominique Delacoste, c'est une des deux vampes, notamment, ça a très, très bien marché. Là, récemment, j'ai joué avec Elisa Servier, Bonne Pioche, pareil. Et puis là, on vient. Bah, c'est marrant parce que ce matin, tiens, dans le TGV qui me conduisait jusqu'à toi, cher Fred, et au studio de Mona FM, eh bien, on m'a fait une proposition d'une pièce que j'ai commencé à lire et qui a l'air pas mal du tout. À deux personnages, un homme, une femme. Voilà. Mais mais tu vois, c'est moi, le seul regret, c'est que parfois, tu sens que tu fonctionnes moins bien par rapport au public. Tu vois. Donc, tu peux effectivement avoir des secousses, comme on dit. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai été pour reprendre la maxime d'un feuilleton célèbre, victime innocente d'une justice aveugle, si tu veux. C'est-à-dire qu'un gars, un jour, a décidé qu'on allait m'écarter de l'organigramme, et ça a été fait, en deux coups de cuillère à peau. Donc je regrettais. À l'époque, il n'y avait pas la TNT, c'était difficile de rebondir. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à retomber sur mes pattes. Mais après, il y a eu Gulli, l'école des fans, qui a très bien marché aussi.
Moi, j'ai
de la chance, parce que tout ce que j'ai fait en télé, en radio, a toujours fonctionné.
Ouais.
Tu peux, pourtant, il y a une liste, on parle toujours du juste prix, mais que ce soit Les Animaux de mon cœur, Vive à la vie, SVP Comédie, Capital d'un soir, tout a fonctionné. Donc je suis plutôt quelqu'un de gâté par la vie.
Le prochain bouquin sera très gros, parce que vous avez vu toutes les émissions qu'il a plus citées, plus la radio, plus pas mal de choses. Mais pour l'instant, lisez ce livre qui est sorti, Dites bien à mon fils que je l'aime.
Ce sont des tranches de vie, en fait, parce que on l'a pas dit là, mais je parle aussi de la peur en avion, ça, tout le monde va se regarder. Et je livre quelques expériences de voyage dont certains assez récents et assez épiques. Je parle de la cigarette. Moi, j'ai été accro à la cigarette pendant des années, des petites mésaventures qui me sont arrivées, notamment sur le plateau du Juste Prix à cause d'une cigarette. Donc, c'est pas un livre triste, hein. C'est vrai que ça commence.
Non, c'est une tranche de vie. Voilà. Il y a un moment triste, mais il y a surtout un moment de vie en famille, en fait. C'est vraiment ça. Et tout ce qui peut se passer autour d'une famille avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Rizzoli et qui a réussi dans sa vie, tout simplement, il faut le dire clairement. Merci beaucoup, Philippe.
Mais Fred, c'est moi qui te remercie et je te dis à très bientôt, soit pour une pièce de théâtre, soit pour la suite. Ce sera vraiment un plaisir.
Pas de soucis.